France Musique.
Bonsoir à tous, bonsoir Émilie.
Bonsoir Rodolphe.
Ravi de vous retrouver pour En Piste Contemporain. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour décliner l'actualité du disque contemporaine.
Au programme, deux œuvres de Magnus Lindberg, un concerto de Penderecki et un voyage pianistique en Iran.
Et tout de suite, un compositeur que vous allez peut-être reconnaître. Écoutez. De quelques notes pour reconnaître l'univers du compositeur vivant le plus joué, le plus enregistré, le plus controversé, j'ai nommé
Philip Glass.
Avec pas moins de deux actualités du disque ces jours-ci, dont cette musique avec partie changeante. C'est une partition d'un seul tenant qui dure près de 50 minutes. Alors je me suis dit, soit je vous la diffuse dans son intégralité et on fait rien d'autre dans cette émission.
Et c'est 50 minutes comment, comme ça?
Comme ça, d'une musique ultra répétitive qui rejoint un peu les œuvres, je trouve, de Terry Riley. C'est un enregistrement que l'on doit au Salt Lake Electric Ensemble. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces musiciens, ils sont spécialisés dans ces musiques et ils leur donnent, je trouve, des couleurs assez intéressantes parce que là on entend bien les synthétiseurs. Tous les instruments sont connectés électroniquement et ça donne cette couleur un peu singulière de la musique de Glass.
L'autre disque Philip Glass est tout aussi intéressant parce qu'il fait appel à un instrument qu'on n'associe pas forcément à ce compositeur.
Oui, est-ce que vous avez déjà entendu du Philip Glass à l'orgue?
Mais non, je ne crois pas.
Et c'est un coup de cœur, vous allez entendre, c'est un disque qui est une grande réussite. C'est le projet de James McVinney, qui est un génial organiste anglais qui fait beaucoup pour la création musicale. Il nous invite à écouter la musique de Philip Glass de manière différente. C'est convaincant, varié, très bien enregistré. Et voilà ce que ça donne dans l'un des chefs-d'œuvre. C'est une partition peut-être la plus connue de Philip Glass qui s'appelle Mad Rush. Et on oublie parfois qu'elle a d'abord été en fait composée pour orgue. On entend souvent la version pour piano, mais Mad Rush c'est pour orgue. Ça a été composé en 1979 et c'était à l'occasion du premier discours du Dalai Lama à l'automne 81 à New York. Et en fait, la pièce était faite pour accompagner l'entrée du Dalai Lama dans la cathédrale Saint-John à New York. C'est donc, vous allez entendre, une œuvre qui est faite pour marcher. Ça dure 10 minutes et je trouve qu'à l'orgue, ça fonctionne extrêmement bien, la musique de Philip Glass.
Thank you.
C'est étonnant hein, comme version. Mad Rush de Philip Glass.
Oui, on l'entend autrement hein,
oui,
que, par rapport à la version
on,
piano.
On reconnaît tous ces...
Mais toutes ces résonances, toutes ça ces, fonctionne très bien.
Puis tous ces tics d'écriture aussi de ce compositeur qui, avec très peu d'éléments, arrive à construire une œuvre cohérente qu'on reconnaît dès les premières écoutes. Mad Rush, c'est le très beau disque de James McVinnie, qui est donc un organiste anglais. Allez voir aussi un petit peu du côté de ce musicien. Il est assez étonnant, assez décalé. Et c'est donc l'œuvre de Philip Glass.
Et si vous aimez le célèbre Phil Glass, c'est bien réécouter notre Carrefour de la Création du 1er septembre. C'était le tout premier Carrefour de la Création avec Thomas Vergrache qui nous avait parlé longuement de Einstein on the Beach et qui avait décortiqué cette partition.
En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
Voilà un très beau projet que l'on doit au clarinettiste Jean-Luc Votano, clarinette solo de l'Orchestre Philharmonique de Liège, avec lequel il enregistre, musicien très impliqué dans la création. Et il a placé au centre de son opus ce concerto de chambre pour clarinette, quatuor et orchestre à cordes de Carl Amadeus Hartmann, une pièce des années 30 écrite par un musicien qui n'a pas encore 30 ans, qui est dédiée à Kodály, une œuvre séduisante et rhapsodique, imprégnée de musique populaire et qui doit être bien difficile à mettre en place hein, quand j'écoutais.
Ah,
puis à la fin,
les petits contretemps,
les petits rites dans tous les sens, là, ça ne doit pas être évident, mais je dois dire que Jean-Luc Votano s'en sort à merveille.
Et aux côtés donc de cette partition, il y a deux œuvres du 21e siècle.
Une pièce de Johann Fargeau, musicien qu'on connaît bien en France, co-fondateur de l'ensemble Contraste. Une pièce qui s'appelle Fantasme, qui est dédiée aux interprètes de ce disque, à savoir donc Jean-Luc Votano, mais aussi Arnaud Torrette et Antoine Pierlot. C'est son premier enregistrement. Et puis, il y a le concerto pour clarinette de Magnus Lindberg, dont Votano a assuré la création belge. C'est une grande fresque d'une demi-heure qui commence tout doucement, qui rapidement prend de l'ampleur. On est assez fanatique hein, de ce compositeur, Rodolphe,
oui,
tous les
je
deux.
Je crois que c'est un de mes préférés.
Ouais, je vous comprends. Il met à rude épreuve le soliste. Il utilise à peu près tous les procédés techniques exploitables à la clarinette. Elle passe par tous les états possibles et imaginables. Il y a des passages très modernes, mais aussi des séquences beaucoup plus classiques. On n'est parfois pas loin de la musique de film ou du jazz. En tout cas, c'est un langage qui est très accessible. On est tout de suite happé par cet univers. On ne peut pas l'écouter en entier, très malheureusement, puisque c'est comme tout à l'heure, votre Phil Glass, là, une demi-heure de musique,
on
ça
espère
bien,
donner envie, en tout cas.
Mais oui, on espère vous donner envie avec ces 10 premières minutes, et cet indice dont nous sommes partenaires, et c'est donc un disque
qu'on va vous offrir. francemusique.fr, en piste contemporain, vous nous envoyez un petit courriel avec votre adresse postale. Thank you.
contemporain, c'est chez Fuga Libera, c'est un disque passionnant et c'est donc notre coup de cœur de la semaine et un disque à gagner. Merci pour vos mails.
Moi aussi j'ai mon Magnus Lindberg,
hein. Oui.
Il n'y a pas que vous.
Non, ça c'est
parce
vrai.
Parce que c'est un immense compositeur, un homme libre dont le métier est phénoménal, je trouve, au même titre que ses compatriotes, Esa-Pekka Salonen ou Kaija Saariaho. Et il a composé tout récemment, c'est une partition de 2017 que nous allons écouter, ce qui est, je crois, allez, je me lance, peut-être sa plus belle partition pour orchestre. Ça s'appelle Tempus Fugit. C'est une vaste réflexion sur le temps qui fuit, qui bouge, qui s'immobilise, qui recule, qui avance toujours. Et on sent ici que la puissance de la machine orchestrale symbolise ce temps comme une grande horloge. Et c'est d'ailleurs la mécanique d'une montre que l'on voit sur la pochette de ce disque. Et c'est vrai que c'est assez fascinant. On en avait parlé, souvenez-vous, dans notre bureau récemment. Je me demandais comment une montre pouvait marcher avec toutes ces petites roues, tout ce qui fait que le temps est symbolisé, il avance. Et comme toujours avec Lindberg, il y a des surprises, comme un solo de piano au milieu de ces 30 minutes de musique, comme si le temps tout d'un coup se suspendait. On va écouter un large extrait de cette partition. J'ai choisi le moment où l'orchestre est peut-être le plus flamboyant. Et c'est d'ailleurs une œuvre qui a été commandée par Anu Lintu. C'est lui qui l'a enregistrée ici avec l'orchestre de la radio finlandaise.
Thank you.
Voilà, un compositeur qui sait écrire pour l'orchestre et qui sait faire sonner son orchestre comme un instrument aux mille couleurs, plein d'images dans cette musique.
Oui, ça convoque beaucoup le visuel.
Le visuel aussi, le temps qui fuit. C'est une magnifique partition de Magnus Lindberg, l'orchestre symphonique de la radio finlandaise sous la direction de celui qui a demandé cette partition. Il en a bien de la chance, c'est le chef d'orchestre Anu Lintu.
En piste contemporain, Émilie Munera et Rodolphe Bonneau-Boulmier, France Musique.
C'est un projet dont on vous a déjà parlé sur cette antenne, que l'on doit à la pianiste Leila Ramzan. Elle s'est lancée dans une anthologie de la musique iranienne, 100 ans de musique iranienne au piano. Ça va être une trilogie. Alors, savez-vous à quel moment le piano est arrivé en Iran?
Oh là là, ça y est. J'ai pas révisé mon histoire géopolitique, mais je dirais à la fin du 19e.
Ah, au début du 19e. Ah. C'est beau quand même, hein, parce que vous aviez une belle date à me donner comme ça, 1805. C'était un cadeau de Napoléon à la cour. Et au début, il a été entreposé comme un objet de décoration. Dans chez les familles bourgeoises, tout le monde voulait finalement un piano juste pour poser le vase quelque part. Et puis, il a fallu attendre 50 ans avant qu'un musicien iranien joue de cet instrument. Et d'ailleurs, ce sera une musicienne puisque la première pianiste en Iran était une princesse. Et petit à petit, les musiciens vont s'emparer de ce piano qui doit devenir très populaire dans le pays. Et aujourd'hui, il reste l'un des instruments préférés des compositeurs.
Vous aimez bien quand la musique contemporaine raconte de belles histoires comme ça avec des princesses.
Je vous voyais,
ça vous plaît beaucoup.
Je vous voyais me regarder avec un air passionné. Vous avez dit, ça y est, elle a fait sa thèse
dès
sur la musique.
Dès qu'il y a une princesse.
Ah, vous savez, c'est pas vraiment évident de parler d'école de musique de composition iranienne,
non.
Puisque la plupart des compositeurs du XXe siècle ont dû quitter leur pays et finalement ils se sont nourris des courants dominants occidentaux pour composer leur musique. Ils ont trouvé leur liberté dans les musiques extérieures à leur pays. Mais Leila Ramzan quand même a décidé de nous faire découvrir toute cette œuvre. Il y a eu déjà un premier disque il y a 2 ans avec les compositeurs des années 50. Voici le deuxième qui nous fait découvrir une pièce de Alireza Machaïri. Cette pièce s'appelle Scheherazade. C'est un compositeur qui est né à Téhéran en 1940. Il a étudié à Vienne et à Utrecht, donc lui aussi hors de son pays. Il a fondé un groupe de musique contemporaine à Téhéran dans les années 90 et il a composé cette Scheherazade en 92. Ce sont 9 tableaux pour piano et narration. C'est le compositeur lui-même qui écrit 9 textes qui correspondent à un tableau musical. Et il va donc y mêler, lui, musique ancienne iranienne et musique d'aujourd'hui. Avec lui, nous dit la pianiste, le passé et le présent s'effleurent. Il est un peu le Boulez de l'Iran. Il a apporté beaucoup de modernité à notre culture.
Thank you.
L'attente, c'est ainsi que s'achève cette Scheherazade de Alizera Mashayeri, jouée par Leila Ramzan. Donc vous avez les 9 pièces pour piano et les 9 textes d'introduction à ces pièces. Alors on peut, elle nous explique qu'on peut jouer évidemment avec ou sans les textes, mais elle a préféré avoir ces textes écrits par le compositeur. Ça fait partie donc de cette grande anthologie de la musique iranienne, 3 ou 4 volumes prévus.
Tout d'un coup, je ne sais plus. La langue doit être belle, la langue parlée
oui.
aussi.
Oui, ben je vous le ferai écouter après, Rodolphe. Ne soyez pas.
On se fera une petite séance.
Ne soyez pas déçus. On va écouter un compositeur que vous avez déjà entendu dans le concert d'Arnaud Merlin il y a à peu près une heure, c'est Monsieur Penderecki.
Oui, parce que nous avons une actualité du disque autour de cet immense compositeur, peut-être l'un des plus grands vivants, 85 ans, polonais, avec un catalogue gigantesque. Il écrit une musique qui s'y a évolué au fil des années, je trouve. Elle garde une sorte de colonne vertébrale inébranlable, à savoir la densité. Je ne connais pas vraiment d'œuvre légère de Penderecki.
C'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de monde.
Il y a toujours beaucoup de monde.
Et beaucoup de musiciens pour jouer.
C'est assez compact comme
oui,
musique.
C'est vrai.
Il y a toujours du lyrisme, depuis Traîne pour les victimes d'Hiroshima aux œuvres qu'il compose aujourd'hui. Il y a une certaine Alors certains diront que c'est une lourdeur, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très dense, de fascinant, de vrai aussi chez ce compositeur. Penderecki, par exemple, il est passionné par la botanique. Vous savez qu'il a créé son propre jardin botanique en Pologne et qui, paraît-il, est le plus grand du pays. Donc c'est aussi un personnage impressionnant. Et puis ça vous arrivera un jour, Émilie. L'astéroïde 21059 a pris le nom de Penderecki en son honneur. Donc un jour, il y aura certainement une planète en votre honneur.
Ah
en tout
ouais,
cas,
c'est carrément une planète pour moi.
Ah oui,
c'est gentil, bah, faut... c'est gentil.
C'est pas un petit bout de caillou
non plus. C'est sympa.
Le label Doux s'est lancé dans une intégrale de sa musique et c'est passionnant, il va y avoir beaucoup de volumes. Le nouveau qui arrive aujourd'hui nous présente 3 concertos, celui pour alto, clarinette et puis le double concerto pour violon et alto qu'on va écouter aujourd'hui, qui est ce très beau concerto.
Thank you.
C'est la fin du double concerto de Penderecki pour violon et alto et orchestre. Très belle version. J'ose pas, enfin, j'ai pas le courage de vous donner les interprètes en polonais. Vous allez voir sur le site de francemusique.fr l'émission En Piste Contemporain. C'est sous la direction du compositeur Christophe Penderecki. Je vous disais que c'était un immense compositeur. Mais alors, ne parlons pas du vôtre, Émilie, que vous allez nous présenter maintenant. C'est une star mondiale.
Alors là, c'est un peu comme Philippe Glass.
Oui. Donc, c'est vrai que là, on a eu quand même entre Lindbergh, Penderecki, Glass et
Arvo Pärt, on a eu quand même les grands compositeurs. Compositeurs, on n'a pas eu de compositrice aujourd'hui.
Non.
Mais on a des interprètes féminines.
Oui.
On a eu Leïla Ramzan et aujourd'hui, donc pour Arvo Pärt, nous avons Margaret Bartscher, qui est concertmeister de l'Orchestre de Chambre de Los Angeles, avec lequel elle enregistre sur son nouveau disque un concerto de Bach et trois pièces écrites donc par des compositeurs encore en activité. Un concerto pour violon écrit par l'Américain Pierre Jalbert, une commande en 2017 de son orchestre. Son deux mouvements assez contrastés. J'aimerais bien vous le faire entendre d'ailleurs, puisqu'il y a d'un côté les qualités lyriques et expressives du violon et puis de l'autre, j'en perds
mon violon. Mais là, on n'a pas violon. Le temps, donc ce sera
non,
une autre fois.
Non, de l'autre côté fougueux, d'accord. Et puis, suivent deux pièces venues de Lettonie et d'Estonie. La méditative Lonely Angel de Péteris Vasks et le célèbre Fratresse d'Arvo Pärt. Alors non seulement c'est un compositeur connu, mais en plus c'est certainement son œuvre la plus connue. Elle date de 77, vous connaissez peut-être l'histoire. Elle a été écrite après une profonde crise de création du musicien. J'avais perdu mon compas intérieur et je ne savais plus la signification d'un intervalle ou d'une tonalité, dit-il. Et donc avec Fratresse, il va ouvrir une toute nouvelle période d'écriture. Certainement donc l'une des plus jouées et c'est certainement aussi parce que cette pièce, il en a donné une version, mais il a dit aussi que l'instrumentation n'était pas fixe et que chaque interprète pouvait se l'approprier. Lui-même en a donné plusieurs versions et c'est celle pour violon, orchestre et percussion qui date de 1992 qu'on écoute tout de suite. Thank you. fratresse pour violon, orchestre à cordes et percussions. C'est Margaret Batcher au violon avec l'orchestre de chambre de Los Angeles dirigé par Jeffrey Kane. Et il y a également le premier enregistrement mondial du concerto pour violon de Pierre Jalbert, ce compositeur américain.
Avant de se quitter, Émilie, je vous propose un petit portrait.
Ah, le petit portrait de Monsieur Berland.
Exactement, écoutez ceci.
Portrait sonore, Antoine Berland.
Faites un son aigu.
Que pensez-vous de la musique? Musique, c'est ma vie.
Bonjour. Aïe, aïe, aïe. C'est ce que j'ai toujours rêvé de faire, de la musique, mais j'en ai jamais fait.
De la flûte?
Ouais,
flûte
traversière.
Mmh. Oh,
aigu. La musique, ah bah... Bon, je sais pas, elle fait partie des cinq sens. Hein. Sans musique, il manque quelque chose. Hein.
Grave.
Être ému aux larmes, oui, ça fait partie des plaisirs de la vie, bah oui.
Ombre brûlée, terre de sienne. Terre de sienne,
naturelle.
Des terre couleurs, de sienne.
Des couleurs d'ombre.
Des couleurs
à
des
forêt,
des ciel,
de couleurs naturelles.
Ça, vous insistez, hein. Non, je le ferai pas. J'irai pas dans ce sens.
C'était le portrait sonore d'Antoine Berland. Vous pouvez le podcaster et vous pourrez aussi le réécouter la semaine prochaine.
Merci à Alain Joubert, Olivier Guérin et Marjolaine Portier-Cattelbach.
Le carrefour de la création se poursuit jusqu'à minuit et demi avec l'expérimental et création mondiale. Mais tout de suite, le carrefour de la création offre son antenne au pianiste Bertrand Chamaillou. Vous connaissez certainement le magnifique interprète du répertoire romantique, mais moins le pianiste engagé pour la musique de son temps. Et depuis quelques années maintenant, Bertrand Chamaillou sollicite de nombreux compositeurs. Il investit le territoire de la création mondiale. Alors, on a eu la chance de l'entendre en mai dernier dans la création du deuxième concerto pour piano et orchestre de Michael Jarel avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. C'était à l'occasion de sa résidence à la Maison de la Radio. Et en vue de ses concerts au Festival Musica, nous avons proposé au pianiste de s'emparer du carrefour de la création. Bienvenue à Bertrand Chamaillou.
À réécouter sur francemusique.fr.